place publique.
La radio FM, c'est bientôt du passé. D'ici 5 ans, les acteurs de la branche ont l'intention d'abandonner ce mode de diffusion pour préférer le numérique, à commencer par le DAB, déjà bien implanté. Notre éclairage sur les enjeux de cette transition technologique dans un instant. Le suicide assisté est aussi une réalité au sein de l'Église. Les pasteurs sont de plus en plus confrontés à des fidèles qui font ce choix. Les églises réformées de Berne, Jura et Soleure font connaître leur position sur la question. Et on en parle tout à l'heure avec un pasteur et un théologien. Enfin, Ruth Dreyfus nous rejoindra en dernière partie d'émission. L'ancienne présidente de la Confédération est à Port-en-Truy ce soir pour parler de politique de la drogue. Son credo, la répression ne fonctionne pas, l'État doit réguler le marché.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. 2/3 des Suisses écoutent la radio en mode numérique. C'est dire que les années de vie de la bonne vieille bande FM sont comptées. Les acteurs de la branche envisagent de tirer la prise d'ici 5 ans, fin 2024. Désormais, le DAB s'impose dans le pays, avec aussi la radio sur Internet ou depuis le poste de TV. Mais les enjeux de cette transition technologique sont nombreux. Pour s'en rendre compte, une délégation suisse s'est rendue cette semaine à Oslo, la Norvège, qui a supprimé la FM l'an dernier. Et l'occasion de faire un bilan avec vous, Philippe Zano. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous rentrez d'Oslo. Alors, vous présidez les radios régionales romandes, dont font partie RJB, RFJ et RTN. Qu'est-ce que vous retirez comme principaux enseignements de cette expérience norvégienne? On le rappelle, un premier pays au monde à se passer de la FM. Est-ce que, par exemple, on a constaté une baisse des audiences?
Alors, il y a eu une petite baisse des audiences lorsque la FM a été arrêtée et environ 1% des Norvégiens ont tout simplement cessé d'écouter la radio. Mais ce que je retiens, tout d'abord, c'est que la Norvège n'est pas la Suisse. La Norvège est un pays qui parle une seule langue, qui est isolé sur toute sa façade ouest par la mer. Et puis à côté, il y a la Suède qui parle une langue proche, mais pas la même. En Suisse, nous avons 3 voire 4 langues avec des voisins qui parlent les mêmes langues. Donc on ne peut pas prendre les mêmes dispositions. Il faut en Suisse que la radio se digitalise jusqu'au bout. Nous sommes une société qui en général se numérise et se digitalise. Et nous voulons supprimer à court ou moyen long terme ce qui reste le seul élément analogique de l'ensemble des activités dans la radio, c'est-à-dire la diffusion. Lorsqu'on enregistre, c'est numérique, le montage est numérique, les studios sont numériques, les liens ensuite entre les studios et les émetteurs sont numériques. Et puis le dernier passage là, il est analogique, et puis ça implique un certain nombre de problèmes qui peuvent être supprimés grâce au DAB+.
Alors pourquoi ne pas arrêter plus vite la FM? On parle de 2024, c'est dans 5 ans.
Alors, les avantages du DAB sont connus pour celles et ceux qui disposent d'une voiture équipée avec une radio hybride FM et numérique. Eh bien, on entend la différence. Lorsqu'on sort des tunnels, on passe en DAB et la qualité est clairement supérieure. Et lorsqu'on rentre dans nos tunnels, eh bien, on a la FM et on entend la différence. L'autre grande différence, c'est que sur une fréquence, on peut mettre en gros 16 programmes. Mmh. En DAB+, c'est un seul programme en FM, et on voit clairement là aussi que on ferait des économies au niveau des radios.
Alors on le sent bien, il y a des avantages au DAB, on vous en avait cité quelques-uns, mais pourquoi le DAB ne peut pas supplanter plus rapidement la FM comme l'a fait la Norvège?
Alors, je crois qu'il faut donner du temps au temps. Aujourd'hui, la FM est quelque chose qui est apprécié du public et on leur propose avec le DAB+, une solution technique qui est encore meilleure. Mais il s'agit pas d'aller trop vite. Il s'agit aussi de terminer le réseau DAB+. Il ne l'est pas aujourd'hui. Si on dit aux gens, le DAB+, c'est mieux, et puis en fait, dans certains endroits, c'est moins bien, ça va pas. Donc, il faut terminer le réseau DAB+. Une vingtaine d'émetteurs sont prévus encore en Suisse romande pour boucler la boucle. Et ça permettra aux Jurassiens de Château, aux Jurassiens bernois qui vont skier en Valais, d'écouter leur radio depuis chez eux, jusqu'en Valais, par exemple.
Donc, le DAB a bien sûr de multiples avantages. Pourquoi c'est si important de miser sur cette technologie, donc qui nécessite, vous l'avez dit, des infrastructures et pas se contenter d'Internet, de la 4G, de la 5G qui va débarquer?
Moi, je crois que tout le monde a vu ce qu'implique Internet et les dépendances ces derniers mois, avec notamment les grands Américains, les GAFAM, comme on les appelle. Et aujourd'hui, tous ceux qui misent tout sur Internet deviennent dépendants de ces grandes entreprises américaines. En allant sur le DAB, c'est-à-dire en allant sur nos montagnes à nous, avec nos émetteurs à nous, eh bien, nous restons indépendants et nous maîtrisons la communication entre les studios et les auditeurs. Donc c'est un choix stratégique de ne pas tout miser sur Internet, mais d'avoir cette sécurité et cette indépendance.
Et le DAB qui permet aussi du multimédia, d'envoyer pas seulement du son, des images bien sûr, et pourquoi pas des vidéos.
Alors oui, ça c'est aussi une des grandes possibilités qui n'est pas encore non plus exploitée à 100%. Le DAB a démarré, hein, je vous le rappelle, il y a quelques années à peine, et il y a encore donc un réseau à terminer et des prestations nouvelles et exclusives qui seront disponibles sur DAB+.
Philippe Zano, on va parler maintenant du contexte dans lequel tout ça est en train d'intervenir. Il y a un an, on se souvient bien du débat acharné pour ou contre la redevance Bilag, les médias audiovisuels de services publics dont les radios que vous représentez étaient menacées tout simplement de fermer boutique l'année prochaine. Alors au final, les Suisses ont heureusement pour ces radios rejeté massivement nos Bilag à plus de 70%, si bien qu'au 1er janvier, eh bien la redevance est toujours là, mais elle sera moins chère, ce sera plus Bilag, mais Serafé. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre par rapport à ce changement qui intervient dans un peu plus d'un mois ?
Alors pour les radios et télévisions régionales, il y a relativement peu de changements. Elles percevront 1% de redevances en plus, ce qui leur permettra aussi d'améliorer encore leurs prestations journalistiques en particulier. Pour la SSR, il est clair que les conséquences sont assez importantes. D'abord, elle devra économiser 100 millions. Elle sera plafonnée à 1,2 milliard, ce qui reste une somme très importante, c'est très clair. Mais elle prévoit aussi de réduire de 25% les surfaces de travail, les bureaux, les studios, etc. Donc la SSR est contrainte à faire des efforts et nous sommes attentifs. Nous faisons attention à ce que ça se passe réellement. Parce que si la SSR ne fait pas ses efforts, eh bien on va se retrouver d'ici une année ou deux ans de nouveau avec une votation sur la SSR, la redevance, etc. Et je crois qu'on a d'autres choses à fouetter.
Surtout qu'au
plan roman, il y a une chose que l'on peut noter, c'est que Nobilag a créé une grande solidarité entre les médias. Je crois qu'entre les radios, nous nous entendons très bien, entre les télévisions régionales aussi, la RTS, ça va bien, on se parle. Nous collaborons dans un certain nombre de domaines, comme la technique, la formation, même si nous sommes concurrents au niveau des programmes. Et puis nous avons créé un forum des médias romans, ça c'est une des réalités aussi de l'après-Nobilag. On constate que beaucoup de nos problèmes viennent de Suisse allemande, où il y a une grande guerre entre la RTS, les grands éditeurs, Tamedia et compagnie. Et nous en souffrons en Suisse romande.
Y compris pour la presse écrite, ce forum réunit aussi des éditeurs.
Oui, alors ce forum, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il réunit à la fois la RTS, les radios et télévisions privées, mais aussi les éditeurs, c'est-à-dire les journaux et communications suisses. Et ça n'est pas quelque chose que nous avons créé pour faire du business ou je ne sais pas quoi, mais pour créer une plateforme de discussion qui soit capable de faire des propositions pour aider les médias romans, la presse aussi notamment, qui est en difficulté, de manière à ce que nous ayons des solutions en commun et créatives.
Surtout que c'était un des enjeux principaux du débat sur la redevance, c'est l'équité de traitement par rapport aux médias, avec une nouvelle loi sur les médias électroniques qui doit remplacer la loi sur la radio et la télévision et qui, pour l'instant, ne soulève qu'un front d'opposition.
Alors oui, la nouvelle loi sur les médias électroniques a été proposée cet été. Elle est soumise à consultation et à ma connaissance, les avis sont globalement et quasi unanimement négatifs. Bon, il faut savoir que cette loi ne règle qu'une seule chose, ou ne fait qu'une seule proposition nouvelle, c'est qu'elle implique la redevance pour la création de contenu audiovisuel sur Internet. Donc on voit que c'est extraordinairement limité. Il n'y a rien d'autre dans cette loi, si ce n'est des restrictions à la relative liberté actuelle des médias. Et puis on a oublié aussi un certain nombre de gros problèmes, comme les fenêtres télévisuelles à l'étranger, qui captent 350 millions de publicités en Suisse sans aucune contrepartie. On aurait pu imaginer une petite redevance ou une taxe sur cet argent qui part à l'étranger pour soutenir la culture ou les médias en Suisse. Eh bien, on n'a pas saisi cette occasion. Et pour nous, les radios régionales, ce n'est pas du tout acceptable. On a supprimé la notion de service public régional. Le nom de radio n'existe plus dans cette loi. Les radios deviennent des fournisseurs de médias. Donc, ça n'est pas acceptable. Et l'Office fédéral de la communication devra revoir sa copie.
Merci Philippe Zanot d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur cette transition technologique avec la fin plus ou moins proche de la FM et l'arrivée du DAB en force, mais aussi d'avoir dépeint un peu le tableau politique, le contexte actuel un an après cette campagne sur nos bilagues. On vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.
Merci, à bientôt et vive la radio.
Merci. Et on va maintenant justement prendre le temps d'écouter les principales infos de la journée en radio avec David Sanchez qui nous a rejoint.
Bonsoir. Le comité directeur du PLR veut la démission de Pierre Maudet. C'est ce qu'il vient d'annoncer à l'instant lors d'un point de presse. Il estime que les éléments apportés cet après-midi par le conseiller d'État Genevois n'ont pas permis de restaurer la confiance. Un budget 2019 déficitaire pour Val-de-Ruz, il présente un excédent de charges de près de 5 millions de francs, ramené à 2,1 millions après prélèvement dans la réserve de politique conjoncturelle. Pour soutenir la démarche d'économie initiée par la commune, les employés communaux travailleront une heure de plus par semaine pour un salaire globalement inchangé. De son côté, Val-de-Travers voit également rouge. Le déficit se monte à 3,5 millions de francs, mais aucune augmentation d'impôts n'est proposée. Le Conseil général se penchera sur ce budget le 10 décembre. Le canton du Jura réaffirme son engagement dans la lutte contre le travail au noir. La charte jurassienne concernant le respect de la Convention nationale du secteur principal de la construction a été signée aujourd'hui. À partir du 1er janvier 2019, toutes les entreprises qui signent la charte devront obtenir la carte professionnelle pour chacun de leurs employés. Cette carte, au format carte de crédit, sera nominative et permettra de simplifier les contrôles. Dans le Jura, 42 inspections ont débouché sur des soupçons sur des chantiers en 2017. Le recours contre les élections communales de Valbirse a été rejeté. La préfète du Jura bernois a rendu sa décision aujourd'hui. Le recourant contestait la tenue d'un tirage au sort et la non-élection de la socialiste Joëlle Braun-Monrat. Demain, Météo News prévoit de nombreux passages nuageux de moyenne et haute altitude et un ciel parfois laiteux en matinée. Dans l'après-midi, les voiles nuageux vont diminuer pour céder leur place au soleil. Les températures seront assez douces en journée et même chaudes pour la saison sur les hauteurs, avec un maximum de 7 degrés en plaine jusqu'à 10 degrés vers 1000 mètres. Prochaines informations à 19h. Très belle soirée.
Place publique. Gabriel Devecq.
Le suicide assisté n'est plus un tabou parmi les fidèles au sein de l'Église. Ils sont toujours plus nombreux à faire appel à une organisation d'aide au suicide. Pour les pasteurs, l'accompagnement d'une telle démarche ne va pas de soi, car elle peut aller à l'encontre de leurs convictions religieuses. Pour cette raison, les églises réformées de Berne, du Jura et de Soleure proposent depuis peu une brochure dans laquelle elles prennent position sur cette question sensible. Cette brochure est distribuée dans les paroisses et le document se veut aussi une aide au quotidien pour les pasteurs et un outil de débat. Deux invités avec nous pour en parler. Gilles Bourquin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes théologien, pasteur et co-rédacteur en chef de Réformé, journal des églises réformées romandes. Et Stéphane Rouesch est avec nous également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pasteur de la paroisse réformée de Dies, Lamboin et Presles. On est dans le Jura bernois. Alors Stéphane Rouesch, est-ce que vous avez été confronté à cette question du suicide assisté ?
Alors, oui, il m'arrive régulièrement que des paroissiens lors de visites me posent la question sur ma position. Déjà, et en général, j'évite d'y répondre en reposant une question de manière à essayer de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière cette question, peut-être des peurs, une appréhension. Et concrètement, il m'est arrivé il y a un peu plus d'un mois, une paroissienne qui m'a demandé de l'accompagner. Je la connais depuis une dizaine d'années et nous avions à plusieurs reprises assez longuement parlé de cette question. Et il y avait des étapes de sa vie où elle disait « j'y pense plus trop » et puis d'autres étapes où elle y est revenue. Finalement, elle a pris cette décision et elle m'a demandé d'être présent lorsqu'elle s'en est allée.
Et quel rôle vous êtes ou elle vous a attribué dans cette démarche qui peut être contraire quand même à vos convictions religieuses ?
Voilà. Alors, j'avoue que ça n'a pas été des plus faciles, hein, parce que c'était nouveau pour moi. J'appréhendais. En même temps, il y a ce lien de confiance qui s'était établi durant ces années. Et pour moi, la priorité, alors au-delà de la position qu'on peut avoir sur le suicide assisté, c'était, comme le dit bien la brochure, solidaire quoi qu'il advienne, de continuer d'accompagner aussi en ces circonstances la paroissienne qui me le demandait. Et je dois dire que j'y ai trouvé ma place au niveau spirituel de l'accompagnement aussi à ce moment-là.
Gilles Bourquin, peut-être de manière plus théorique, éthique, en quoi le désir de mourir dignement, comme par exemple Dignitas, qui est cette entreprise ou cette fondation pour l'aide au suicide, en quoi ce désir de mourir dignement et de planifier cette mort peut contredire le message de l'Église ?
Oui, je crois qu'il faut dire en premier que dans le protestantisme, il y a pas vraiment une seule doctrine officielle, surtout sur des questions aussi délicates et controversées, mais plutôt des pistes de réflexion. Et je dirais théologiquement, le suicide assisté n'est pas forcément en contradiction avec le message de l'Église, de la Bible et du christianisme. En effet, on peut penser que parce que Jésus a choisi, lui, de souffrir jusqu'au bout, en ne reniant pas sa foi et en allant jusqu'à la croix, on pourrait en déduire que le croyant, le chrétien aussi, est appelé à souffrir jusqu'au bout, jusqu'à ce que la mort vienne, entre guillemets, naturellement, sans donc planifier un suicide assisté. Mais ce n'est pas la seule interprétation du christianisme, du moins à mon sens. Par exemple, le philosophe et anthropologue René Girard estime que le message du christianisme est une dénonciation radicale de la souffrance, c'est-à-dire que le christianisme donne à voir Jésus crucifié, ce qui est une réalité totalement injuste, et donc une dénonciation de toute souffrance au nom de l'amour. Et dans cette perspective-là, le suicide assisté n'est pas en toute situation, à mon sens, contraire à la théologie chrétienne.
Alors les églises réformées de Bernd Jura-Soller vous suivent dans la mesure où elles ne portent pas un regard définitif ou une position définitive sur la question, mais parlent d'une, qu'est-ce qu'on va dire, d'une légitimation de cette mesure qu'à titre exceptionnel, à savoir quand ce choix apparaît comme le choix le moins pénible. Le fait de ne pas trancher, est-ce que ça ne revient pas à légitimer toute démarche de fin de vie volontaire ou même à l'encourager parmi les fidèles ?
Non, je ne crois pas qu'il faille aller jusqu'à ce point-là. Ce n'est en tout cas pas l'esprit du document qui est produit par le Conseil synodal de l'Église réformée Bernd Jura-Soller. Ce document précise tout de même que c'est surtout dans les cas, sans qu'on puisse vraiment définir une frontière nette, c'est surtout dans les cas d'une souffrance particulièrement extrême qu'il semble, bien sensé d'envisager une telle solution.
Stéphane Rouèche.
Oui, dans le prolongement, effectivement, pour moi, j'ai pas envie de donner d'avoir de réponse définitive par rapport au suicide assisté, parce que dans ce qui me porte, dans mes convictions et dans ma foi, c'est de voir comment favoriser quand même la vie, tout en comprenant que certaines personnes se trouvent dans une situation où la vie leur semble plus possible, plus vivable, où il n'y a plus de qualité suffisante. Mais dans l'accompagnement que j'ai pu avoir avec cette personne, c'est l'enjeu qu'il y a eu, c'est de voir mais comment nous sommes des êtres de relation. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile, avec les années qui passent, de sentir que l'on devient dépendant des autres. Cette perte de l'indépendance est vécue souvent comme une grosse souffrance et me pose pour moi, personnellement, une question, mais aussi, je pense, au niveau de la société, au niveau des églises. Donc, cette question du suicide assisté, je garde la question ouverte, parce qu'elle me renvoie à la question, et moi, dans ma vie de tous les jours déjà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux entrevoir pour favoriser ce qui fait vivre, ce qui met en lien, ce qui met en relation.
Gilles Bourquin, on l'entend bien, on dit que le suicide est peut-être l'acte le plus individuel par excellence, mais quand on entend Stéphane Rouèche, on a l'impression que tout cela dépend aussi de son rôle ou de son non-rôle au sein de la société.
Oui, alors c'est tout à fait fondamental que le, disons, si quelqu'un envisage de se suicider avec une assistance, je pense que l'accompagnement pastoral va consister aussi à l'inviter dans la mesure du possible à prendre en compte la vie de ses proches et à réaliser qu'il fait partie d'une communauté humaine plus ou moins attachée à lui et que donc dans sa démarche de vouloir s'en aller, que l'on peut comprendre ou au contraire on peut l'inviter à peut-être chercher une autre solution, mais dans la mesure où on peut le comprendre, il faut alors aussi, je pense que ça fait partie de la démarche pastorale, de l'aider à prendre en compte la souffrance que cela va produire chez ses proches et donc de les aider aussi à faire le cheminement nécessaire pour qu'ils puissent vivre le mieux possible ce départ. Donc c'est l'idée chrétienne que toujours nous vivons, pas individuellement, mais dans un système de relations.
Stéphane Roy, je voulais réagir.
Oui, alors c'est dans ce sens-là que j'ai pu m'engager, non seulement auprès de la personne qui m'a fait la demande, mais aussi à l'égard de sa famille. Et voilà, donc le départ a pu se vivre avec la personne. Elle m'a demandé de lire un texte biblique qui l'avait accompagnée depuis sa confirmation et qui avait porté sens pour elle durant toute son existence. Un moment fort, c'est aussi, c'est vrai, les mots qu'elle a pu adresser à chacun des membres de sa famille, comme des mots d'encouragement, comme des mots d'amour. Et autant j'appréhendais cet accompagnement, autant il y a eu des moments intenses de sens, parce que chacune et chacun est reparti, parce qu'ils ont aussi pu y être préparés, à cette étape. On peut repartir avec un regard, avec une parole qui va certainement les porter sans nier que c'est aussi un deuil et que c'est un chemin qui passe par la tristesse, par les différentes étapes de deuil qui ne sont pas des plus faciles.
Donc Stéphane Rouèche, vous avez peut-être même changé un peu d'avis sur la question en le vivant comme témoin direct.
Alors, je dois dire que l'expérience que j'ai vécue a été plutôt positif dans la sérénité dans laquelle ça a pu être vécu. J'ai pu avoir un contact avec la famille après coup aussi, parce qu'on a préparé une cérémonie. Et les membres de la famille avec qui j'ai eu un lien m'ont fait écho en fait de cette sérénité. Mais j'aimerais pas en faire une généralité, parce que là il y a des circonstances, il y a un accompagnement depuis un certain nombre d'années et tout ça a permis à mon sens de le vivre de cette manière-là.
Gilles Bourquin, le conseil synodal craint qu'un jour le suicide assisté devienne la norme et qu'on doive un jour se justifier de vouloir vivre encore même si on est âgé et malade. Est-ce que c'est pour vous une crainte fondée à plus ou moins long terme? Est-ce que pour vous le consentement de la personne n'est pas une garantie à tout jamais?
Oui, alors nous sommes à mon sens déjà d'une certaine manière dans ce cas de figure, c'est-à-dire que la question qui nous est posée est plus générale, c'est-à-dire dans nos sociétés, une mort proprement naturelle n'existe plus vraiment, c'est-à-dire que la plupart du temps, la mort est accompagnée par un suivi médical. Donc la question que vous posez, elle revient à se demander jusqu'à quand il faut accompagner médicalement quelqu'un pour lui éviter la mort, et l'extrême inverse, dans l'autre sens du suicide assisté, c'est l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire que on pourrait aussi utiliser la médecine pour refuser de voir que la mort est là et essayer de sauvegarder la vie indéfiniment alors que les forces vitales sont déjà trop faibles pour assumer la vie. Donc où se situe la limite entre un suicide assisté qui insisterait presque pour que les personnes partent trop vite, si j'ose dire, et où se situe l'autre limite qui est l'acharnement thérapeutique. Cette question-là, elle concerne toute la société et elle provient du fait que c'est une illusion de croire que nous mourrons naturellement. Il y a certains choix et même des choix politiques quand il s'agit de dépister des maladies mortelles. Si on les dépiste ou on les dépiste pas, ça va changer le moment auquel les personnes vont mourir ou au contraire survivre. Donc la question de la mort ne peut pas être tranchée dans un sens ou dans l'autre. C'est une sorte d'équilibre à trouver entre un extrême qui serait le suicide assisté et l'autre extrême qui serait l'acharnement thérapeutique.
Gilles Bourquin et Stéphane Rouèche, merci à tous les deux d'être venus dans Place Publique. Vous commentiez donc cette prise de position des églises réformées de Berne, du Jura et de Soleure sur le suicide assisté par le biais d'une brochure qui circule à destination des pasteurs et des fidèles dans les paroisses de la région. Merci infiniment et bonne soirée.
Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Place Publique.
La Suisse lui doit une politique en matière de toxicomanie reconnue mondialement. Elle se bat dorénavant sur le plan international pour réguler le marché de la drogue. L'ancienne présidente de la Confédération Ruth Dreyfus est ce soir à Porrentruy à l'invitation du Forum citoyen et elle nous fait l'honneur de répondre à nos questions dans Place Publique. Bonsoir Ruth Dreyfus.
Bonsoir.
Vous présidez depuis 2 ans et demi la commission globale de politique en matière de drogue basée à Genève. Alors un signe, s'il était besoin, que votre action marque les esprits au-delà de nos frontières dans le monde entier. Vous avez reçu il y a 3 semaines le prix de l'université de Stockholm pour votre politique en matière de drogue et notamment de distribution contrôlée d'héroïne. La presse suédoise rappelle ce constat pragmatique, aujourd'hui évident, mais qui il y a 30 ans passait sans doute pour révolutionnaire. La drogue, c'est d'abord un problème de santé et non de criminalité.
Tout à fait, tout à fait. C'est un problème de santé et je dirais que nous avons été frappés de plein fouet par l'épidémie du sida qui était transmise par des seringues et des aiguilles qui n'étaient pas pures, qui n'étaient pas nettoyées, et d'un autre côté par la quantité de personnes qui mouraient d'overdose. Donc on a été vraiment pris de plein fouet par une crise sanitaire grave et il fallait trouver des solutions. Nous étions aussi face à une espèce de, je dirais un peu, de désespoir de la police qui avait l'impression de faire un travail de Sisyphe en poursuivant des petits dealers sans avoir la possibilité vraiment de mettre fin au crime organisé et au grand de ce crime organisé.
Alors on vous doit, hein, je l'ai dit, la mise en place de cette fameuse politique des 4 piliers, prévention, thérapie, réduction des risques, répression. Les fruits de cette politique, eh bien, ils parlent pour eux-mêmes, hein, baisse de la mortalité, baisse des infections au VIH, disparition des scènes ouvertes. Pourtant, si c'était à refaire aujourd'hui avec un Parlement emmené par une droite conservatrice, est-ce que vous croyez que la mise en place d'une telle politique serait possible ?
Ça serait plus difficile dans une situation où le problème ne serait pas reconnu comme un problème grave qui interpelle toute la société et qui, encore une fois, crée un foyer de maladies, un foyer de morts absolument insupportable. Donc, encore une fois, à l'époque, j'ai eu beaucoup de compagnons de droite, j'ai eu des compagnons de l'UDC, des responsables de ville, des responsables de canton, des responsables de la police qui venaient avec moi sur le chemin, si vous voulez, de ces campagnes que nous faisions pour convaincre la population que nous avions raison d'agir, que nous avions d'abord raison de tenter de nouvelles voies, et puis que ces voies se sont consolidées grâce à un monitoring scientifique, grâce à des rapports qu'on a pu donner, divulguer à la population, de façon à ce qu'elle sache que ce que nous faisions avait peut-être l'air téméraire au départ, mais portait ses fruits.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Ruth Dreyfus, que depuis la Suisse s'est un peu crispée, le Conseil fédéral, alors certes, se dit prêt à réaliser des projets pilotes de distribution du cannabis, mais ça n'a rien à voir avec la situation d'autres pays ou États, hein, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis ou tout récemment au Canada qui dépénalise la consommation. Est-ce que la Suisse n'a pas pris un temps de retard après avoir été précurseur ?
Absolument, elle a pris un temps de retard dans 2 domaines. Le premier, c'est celui que vous appelez la décriminalisation, la dépénalisation. Et là, je ne comprends pas que la Suisse ne fasse pas ce pas qui me paraît absolument évident. Quelqu'un qui consomme des drogues se met peut-être lui-même en danger. pas tous, parce que beaucoup de gens, la majorité, arrivent tout à fait à contrôler la consommation de ces substances illégales. Mais certains ont besoin d'aide. Dans ce cas, il faut les considérer comme des patients ou des personnes en besoin de réintégration sociale. La majorité ne fait, encore une fois, n'a pas d'effet négatif, prend son pied, si je peux dire, et en éprouve quelques plaisirs ou quelques bien-être, ou atténue quelques symptômes qui les gênent, de tristesse, d'insomnie, de tremblement, de toutes sortes de choses, où effectivement, par exemple, le cannabis, vraisemblablement, ou en tout cas, les aide, ou ils ont l'impression que ça les aide. Donc, pourquoi punir ces gens-là ? C'est absolument absurde, même si on a réussi à baisser les peines, même si on s'est résolu à ne demander que des amendes, pourquoi punir des gens ? C'est absolument ridicule. Et là, je dirais que la Suisse a manqué vraiment une occasion de dépénaliser. Et ce qu'il y a de grave, c'est que tant qu'on garde une menace de pénalisation, voire une menace de passer devant un tribunal, alors la prévention devient difficile. Alors il est aussi difficile pour les gens d'avoir accès aux soins s'ils ont besoin de soins. Donc sur ce plan-là, je trouve que la Suisse aurait vraiment été appelée à faire ce pas. Maintenant, sur la régulation proprement dite des marchés de stupéfiants, en effet, je travaille à Genève aussi à l'idée d'un de ces projets pilotes, et je pense qu'on va y arriver plus ou moins rapidement, et on aura alors des informations solides à partager avec la population, et je suis sûr que ce pas-là, on le franchira. Par ailleurs, et il y a d'autres substances, on devra chaque fois trouver l'exact modèle de régulation qui permette, si vous voulez, de trouver la solution idéale entre les risques qu'une substance peut faire courir et le contrôle de l'État sur ces substances.
Et votre raisonnement va loin. Hein. On a pu lire une citation de vous, l'État doit se substituer aux dealers. Quand même, dans la pratique, comment ça marche ? Alors, vous venez de le dire, c'est du cas par cas, selon les substances, selon la réalité de ce dont on parle, mais parlons par exemple d'héroïne, de cocaïne, de drogue dure. Comment fait l'État pour se substituer aux dealers ? Est-ce qu'il va toquer à la porte des cartels ? Comment ça marche ?
Alors écoutez, pour l'héroïne, on est justement pionnier dans ce domaine, puisqu'on peut avoir de l'héroïne sur prescription médicale dans un cadre très, très contrôlé, hein, puisque ça se fait dans une institution spécialisée où les gens viennent consommer. Donc vous savez, je dis toujours, nous on a maintenant un très joli problème, un gros problème, mais je l'aime beaucoup. Ce problème, c'est qu'aujourd'hui on a une population de personnes qui consomment de l'héroïne donc sur prescription médicale, qui commence à être tellement vieux qu'on doit se poser la question, qu'est-ce qui va se passer quand ils seront en EMS ? Ou qu'est-ce qui va se passer quand ils ne pourront plus venir dans le centre, dans l'institution qui a été créée à cet effet ? Moi, je trouve que c'est un très joli problème et il me réjouit beaucoup. Vous savez pourquoi ? Parce que ces gens seraient morts autrement si on leur avait pas prescrit de l'héroïne. Et le fait que maintenant ils nous posent ce problème de savoir ce qu'on va faire quand ils seront en EMS, c'est la plus belle preuve qu'on avait raison d'agir ainsi. Donc voilà un modèle, c'est le plus rigoureux peut-être qu'on puisse imaginer. Et puis l'autre modèle, c'est le cannabis. Et là, le cannabis, on va trouver une solution qui soit quelque chose qui est inspiré par ce qu'on fait pour le tabac et ce qu'on fait pour l'alcool. C'est-à-dire pas aux mineurs, pas en public, peut-être dans des lieux spécialisés pour la vente. Enfin, on a toute une série de possibilités. Et maintenant, on a des modèles aussi. Hein. On a l'Uruguay qui est hyper sévère et puis on a le Colorado qui est hyper libéral. Je pense que pour un pays comme la Suisse, ça se situera quelque part entre les deux. La cocaïne, il faudra faire là aussi, je pense, des essais, y compris des essais cliniques, pour savoir dans quelle mesure on peut soit substituer la cocaïne par autre chose, comme on l'a fait avec la méthadone pour beaucoup de consommateurs d'héroïne qui, eux, restent très fidèles à l'héroïne, à la méthadone. Et puis, peut-être qu'il y aura des substitutions à imaginer. On prétend, par exemple, que certaines consommations de drogues dures ont diminué dans les pays où, au contraire, il y a une régulation et un accès au cannabis.
Donc voilà un argument qui va rassurer tous ceux qui pensent que ces mesures, on va dire, de régulation en main de l'État va faire exploser le nombre de consommateurs. C'est pas ce que vous nous dites. Peut-être une dernière question, Ruud Dreyfus. On a parlé de l'impulsion des villes de Suisse, notamment en ce qui concerne le cannabis. Mais quels sont vos relais au sein des cercles de pouvoir en Suisse actuellement pour faire passer vos idées ?
Ils sont excellents. Dans la plupart des villes dont on parle, c'est soit le législatif, soit l'exécutif qui a pris la décision d'aller de l'avant. C'est très clair. Ce qu'on attend, c'est l'autorisation de Berne, donc de l'Office fédéral de la santé publique. Et là, ils ont refusé un essai à Berne en disant que la loi ne l'autorisait pas tout à fait et qu'il faudrait changer légèrement la loi. Et actuellement, au Parlement et à l'administration fédérale, ce petit changement qui permettrait des essais pilotes sous grande surveillance, avec monitoring scientifique, sont en voie de discussion. Et dès que cet article pourrait être accepté, on pourrait de toute façon aller de l'avant. Et puis, il y a des moyens termes aussi, parce que le cannabis a aussi des utilisations médicales et il se peut que certains cantons se lancent d'abord dans ce type de mesures, à la fois pour l'automédication, mais aussi dans la prévention d'une utilisation problématique du cannabis. Il vaut mieux peut-être offrir à ces gens la possibilité d'apprendre à contrôler cette consommation plutôt que de les laisser sombrer dans une consommation addictive ou problématique.
Et ça bouge donc au niveau de la politique suisse. Vous venez d'en faire la démonstration, de nous le rappeler. Un grand merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On le rappelle, hein, vous intervenez dans un instant au lycée cantonal de Port-en-Truy à l'invitation du Forum citoyen. On vous souhaite évidemment une excellente soirée, une excellente conférence. À bientôt, au revoir.
Merci, bonne soirée à tous et à toutes.
Place publique.